Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Blaise Ndali Tambala.
RDC, 4 mois après son lancement, l'opération contre les FDLR reste au point mort. Pourtant, la neutralisation de ces groupes armés constitue l'un des principaux engagements sécuritaires de l'accord de Washington. Province du Kwilu, la société civile dénonce les détournements des matériaux destinés à la réhabilitation de la route Kanzombi à Kikwit. Accord de Washington, Joseph Nkoy, le rapporteur adjoint de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale qui est l'invité de ce journal, réclame l'application des engagements sur les retraits des troupes rwandaises. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. Mais d'abord cette information, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a pris part ce jeudi à Luanda, en Angola, au sommet mondial pour la paix. Cette troisième édition de l'initiative internationale est placée sous le thème « Un appel à la paix, à la fin des guerres et au respect du droit international ». Avant l'ouverture des travaux, le chef de l'État congolais s'est entretenu avec son homologue angolais João Lourenço, hôte de la rencontre. À travers sa participation, la République démocratique du Congo entend réaffirmer son engagement en faveur d'une paix durable et fondée sur des actions concrètes et le respect du droit international. Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à cette édition du journal sur la radio de la paix. Revenons au pays, lancé il y a près de 4 mois, l'opération militaire des FARDC contre les FDLR peine toujours à décoller. Considéré comme l'un des piliers sécuritaires de l'accord de Washington, cette initiative vise à neutraliser et à rapatrier les rebelles rwandais présents en RDC. Mais à ce jour, aucun résultat majeur n'a été officiellement annoncé en raison notamment de plusieurs obstacles qui entravent sa mise en œuvre. Éclairage avec Martial Papimukeba.
Lors de son lancement, les FARDC avaient annoncé vouloir obtenir la reddition volontaire ou forcée des combattants des FDLR en vue de leur rapatriement vers le Rwanda. Mais sur le terrain, les difficultés demeurent. Les principaux bastions attribués aux FDLR se situeraient au nord Kivu dans des zones contrôlées par l'AFC M23, ce qui empêche à ce stade le déploiement des FARDC. Autre défi, le rapatriement des combattants volontaires qui nécessite une étroite coordination entre la RDC, les Rwanda et les partenaires internationaux dans un contexte de méfiance persistante entre les deux pays. La neutralisation des FDLR figure pourtant parmi les engagements sécuritaires de l'accord de Washington. Kigali continue d'en faire une condition à la levée de ses mesures de défense, notamment les retraits de ses troupes. Pour plusieurs sources sécuritaires, toute la difficulté est là. Comment désarmer les FDLR dans des zones qui échappent au contrôle des FARDC? Selon ces sources, seule une volonté politique partagée entre Kinshasa et Kigali permettra de débloquer ces dossiers qui restent l'un des principaux points de friction dans l'application de l'accord de Washington. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Par ailleurs, le Conseil de sécurité des Nations Unies durcit le ton contre les acteurs impliqués dans l'insécurité en République démocratique du Congo. Le comité des sanctions 1533 a inscrit ce 16 juillet 6 personnes et 2 groupes armés sur sa liste des sanctions pour leur rôle présumé dans la déstabilisation de l'Est du pays. Parmi les personnalités visées figurent Corneille Nangaa, ancien président de la CENI et coordonnateur de l'Alliance Fleuve Congo, mouvement allié au M23. Les personnes sanctionnées sont désormais frappées d'un gel des avoirs, d'une interdiction de voyage et d'un embargo sur les armes. Plusieurs chefs de groupes armés congolais et étrangers figurent également sur cette liste aux côtés de l'Alliance Fleuve Congo et du mouvement Tuiranero, accusés notamment d'exactions contre les civils et de recrutement d'enfants. L'insécurité persiste dans les territoires de Masisi au nord Kivu. Les axes routiers Ngungu, Remeka et Rubaya Remeka sont fermés à la circulation depuis plus d'une semaine. À l'origine, selon des sources locales, une décision de l'AFC M23 après des attaques attribuées au Wazalendo contre ses positions. Une situation qui intervient alors que les combats se poursuivent dans la zone avec des conséquences directes sur la mobilité des populations et les échanges commerciaux. Daniela Awa nous en dit plus.
Dans le groupement de Famandou, les conséquences se font déjà sentir. Les produits agricoles en provenance de ces entités et du secteur de Tatoï n'arrivent plus à Ngongou, tandis que les carburants et les produits manufacturés venant de Goma et Sake se raréfient dans plusieurs localités. Cette fermeture intervient dans un contexte de combat récurrent entre les Ouazalendo alliés au FRDC et les combattants de l'AFC M23. Selon des sources locales, les Ouazalendo auraient repris dimanche le contrôle de Kasake près de Ngongou après 3 jours d'affrontement. De son côté, l'AFC M23 aurait délogé les Ouazalendo de Ngingwe et Malemo dans les Kachali Mokoto ce mercredi 15 juillet. Outre ces affrontements, l'insécurité est accentuée par la présence de bandes armées. Ce jeudi, un convoi de commerçants relié à Goma à Walikale a été attaqué à Kanfoussi entre Kahanja et Kachebere. Face à cette situation, la société civile de Massissi appelle les belligérants à garantir la libre circulation des personnes et des marchandises dans la zone.
Au Kwilu, la société civile dénonce des détournements présumés des matériaux destinés à la réhabilitation de la route Kanzombi à Kikwit. Réunis au sein du cadre de concertation de la société civile du Kwilu, ce regroupement accuse certains chauffeurs et agents de la société DK Service de vendre à la population du carburant et des sacs de ciment affectés à ces chantiers routiers. Selon son président Placide Mokwa, ces pratiques risquent non seulement de ralentir l'exécution des travaux, mais aussi de causer un important préjudice à l'État et aux communautés bénéficiaires de cette infrastructure. La société civile appelle les autorités compétentes à ouvrir une enquête afin d'identifier les responsables et de les traduire en justice. Placide Mokwa est au micro de Jean-Claude Tangamou de la radio-télévision Bandundouville.
Dans la ville de Kikwit, les travaux ont commencé, les travaux de la route Kanzombi, mais nous apprenons de nos amis qui sont sur place que les chauffeurs se donnent à la vente des carburants et certains autres à la vente des ciments. C'est quelque chose que nous déplorons et de la part de la communauté d'abord et de ces chauffeurs-là qui sont inciviques. Les membres de la communauté qui font cette pratique-là, ils doivent être découragés et dénoncés auprès de l'État. S'ils sont commerçants, ils connaissent les terminaux de CEP et des autres compagnies. C'est là où ils doivent aller s'approvisionner en carburant et les revendre dans la communauté. On ne doit pas prendre les carburants destinés à construire la route des Kanzombi, à combattre les ravins dans la ville de Kikwit et commencer à les vendre. Ça, c'est demander une chose et son contraire. C'est des pratiques qu'on doit dénoncer et j'appelle mes collègues à sensibiliser la population pour que pareilles pratiques ne continuent pas et que les récalcitrants soient dénoncés à la police et au parquet.
À Kinshasa, face à l'avancée des érosions, des habitants prennent les devants pour protéger leur quartier. À Camping, dans le quartier Kingu, commune de Selemba où des riverains se mobilisent pour tenter de stopper la progression d'un ravin qui menace habitations et infrastructures depuis plusieurs années. Profitant de la saison sèche, considérée comme une période propice aux travaux de prévention, ils ont entrepris des actions de remblayage afin de limiter les dégâts avant le retour des pluies. Faute d'une prise en charge par les pouvoirs publics, certains habitants disent avoir conclu des arrangements avec des propriétaires des parcelles située à Binza-Pigeon, dans la commune voisine de Ngaliema, pour récupérer les immondices destinées à combler les ravins. Une initiative de fortune dans une zone régulièrement exposée au risque d'érosion et d'éboulement. Reportage de la Chembalou.
Au quartier Kingu, dans la commune de Selembao, les ravins continuent de progresser. Pour l'instant, la saison sèche laisse un répit aux habitants. Un répit qu'ils mettent à profit pour tenter de protéger leur maison.
Jusqu'à présent, aucune solution n'a été trouvée. Heureusement que nous sommes en saison sèche. Nous essayons de faire quelque chose pour ralentir l'érosion. Nous nous sommes organisés pour acheter des sacs afin de limiter les dégâts. Nous demandons vraiment à l'État de nous venir en aide.
Sur le terrain, l'inquiétude reste palpable. Le riverain estime que leurs initiatives ne pourront pas résister longtemps aux prochaines pluies. Il faut une intervention avant les retours de la saison des pluies. Voyez-vous même dans quel état se trouvent les maisons environnantes. Pour cet expert en environnement, les actions menées par les habitants permettent tout au plus de ralentir l'avancée du ravin, sans résoudre durablement les problèmes.
Dans un milieu accidenté comme celui-ci, la meilleure solution reste la construction des caniveaux. Quant au remblayage du ravin, avec des déchets, ce n'est qu'une mesure temporaire. Les immondices ne permettent pas de lutter durablement contre l'érosion.
À Kingu, les temps pressent alors que la saison des pluies approche. Les habitants espèrent voir des travaux engagés rapidement pour stopper l'avancée du ravin et éviter que les nouvelles maisons ne soient emportées.
Les tontines connues en RDC sous le nom de Likelemba ou Kinkurimba pourraient bientôt bénéficier d'un encadrement légal. Le député national Edi Ilungambuyu a déposé à l'Assemblée nationale une proposition de loi visant à formaliser cette pratique de solidarité financière largement répandue à travers le pays. Selon l'élu de Kolwezi dans la province du Lualaba, l'initiative entend offrir un cadre juridique à ces mécanismes d'entraide souvent utilisés pour financer des projets ou faire face aux dépenses du quotidien. L'objectif, explique-t-il, est notamment de mieux protéger les participants contre les risques de fraude, de détournement ou de mauvaise gestion de fonds. On écoute les députés Edi Ilungambuyu dans ses propos recueillis par Grace Amzati Masanzi.
Nous avons pensé d'initier cette loi parce que nous nous sommes rendus compte que la plupart, 70% de Congolais, ont un revenu vraiment très médiocre. Et pour survivre, les gens font cette initiative sociale afin de subvenir à leur projet. La tontine, c'est ce que nous appelons à Kinshasa les Likelemba. En l'espace Swahili, on appelle ça les Kinkurimba. Vous voyez, c'est une activité qui est pratiquée par beaucoup de Congolais, mais d'une manière informelle. Aujourd'hui, on voudrait formaliser cette activité parce que c'est une activité qui aide la plupart des Congolais à réaliser leurs projets. 70% de Congolais font cette pratique, mais d'une manière informelle. Mais aujourd'hui, on voulait formaliser pour que on sécurise cette activité de la tontine au niveau de la RDC.
Restons à Kinshasa où un geste de solidarité a été posé en faveur des femmes déplacées installées dans la commune de Lancélé. Plus de 600 femmes et jeunes filles originaires du site de Pakajuma et actuellement hébergées à Kinkole ont reçu ce jeudi 16 juillet le kit de dignité. Cette assistance a été fournie par l'organisation Solidarité des femmes sur le fleuve Congo avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la population. L'initiative vise à répondre aux besoins essentiels de ces femmes et de leurs dépendants confrontés à des conditions de vie particulièrement difficiles depuis leur installation sur ces sites d'accueil. Ronéline Tibonera nous en dit plus.
Sourire aux lèvres, Amina, 23 ans, fait partie des bénéficiaires. Depuis quelques mois, elle dit vivre dans des conditions précaires allant jusqu'à manquer des sous-vêtements. Le kit reçu, composé notamment d'un seau, des savons, d'un pagne et d'autres éléments essentiels, représente pour elle un véritable soulagement face aux risques quotidiens.
Que Dieu vous bénisse pour ces gestes. Cependant ici, nous rencontrons beaucoup de difficultés. Si possible, nous aimerions également bénéficier d'un accès à l'eau potable, des ustensiles de cuisine et même d'une aide financière, ne serait-ce qu'un peu, pour soutenir nos ménages car nous avons beaucoup de mal à nous nourrir.
Pour Becky Mboissé, responsable de Sofleco, au-delà de cette assistance, les femmes vivant sur ces sites ont également été sensibilisées aux violences basées sur le genre afin de les protéger des risques futurs.
300 femmes ont été sensibilisées, dont 100 femmes allaitantes, 100 femmes enceintes et 100 jeunes filles. Mais quant aux distributions des kits, on a essayé d'élargir, étant donné que les besoins étaient énormes.
Depuis février 2026, plus de 6 000 ménages venus de Pakajuma vivent dans les sites de transit de Kinkole. Plusieurs occupants dénoncent des conditions de vie jugées très précaires, notamment le manque de latrines salubres et d'autres infrastructures essentielles.
Dans le Haut-Katanga, le climat social s'étend dans les établissements publics d'enseignement supérieur et universitaire. Deux professeurs, deux chefs des travaux et membres du personnel administratif de l'université de Lubumbashi, l'UNILU, ainsi que de l'Institut supérieur des techniques médicales, l'ISTEM, dénoncent la dégradation de leurs conditions de vie et de travail. Réunis en collectif, ils menacent de déclencher un mouvement de grève si leurs revendications ne sont pas prises en compte. Hier, une délégation s'est rendu au gouvernorat du Haut-Katanga pour remettre un mémorandum au ministre provincial de l'Éducation afin d'alerter les autorités sur leurs préoccupations. Le point avec Paulé Monanga.
Une dizaine d'enseignants, dont certains vêtus en toge académique, sont allés rappeler au gouvernement ses engagements qui, selon eux, ne sont pas respectés. Ils revendiquent notamment les meilleures conditions de travail, l'application effective des nouveaux barèmes salariaux, la régularité de la paye complémentaire. Il y a aussi le versement de la prime de recherche aux enseignants-chercheurs et la mise à disposition des véhicules promis aux professeurs. En outre, la prise en charge des personnels scientifiques poursuivant des études pour l'obtention du diplôme d'études approfondies, master ou doctorat, la mécanisation des nouvelles unités du personnel de l'enseignement supérieur et universitaire ainsi que la correction des grades des agents. Signalons que les professeurs d'université ne sont pas à leur première démarche. Il y a quelques mois, ils avaient déjà interpellé le gouvernement sur leurs conditions de vie et de travail, mais il n'y a pas eu de suite favorable. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Les États-Unis et l'Iran ont de nouveau échangé des frappes. Le conflit au Moyen-Orient ne montrant jeudi 16 juillet aucun signe d'accalmie après plus d'une semaine de bombardements. Les gardiens de la révolution ont déclaré avoir frappé des cibles militaires américaines à travers la région, notamment à Bahreïn, au Koweït et en Jordanie.
L'invité.
Notre invité de ce jour est le député national Joseph Nkoy, rapporteur adjoint de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale. L'élu de Katakokombe dans la province du Sankuru réagit à l'expiration de l'ultimatum fixé à la mi-juillet pour le retrait des troupes rwandaises à l'est de la RDC, un engagement qui n'a toujours pas été respecté. Pour Joseph Nkoy, les États-Unis, garants de l'accord de paix signé à Washington entre la RDC et le Rwanda, doivent désormais prendre leurs responsabilités et veiller à l'application effective des engagements souscrits par les parties. Joseph Nkoy est au micro de Grâce Hamzati.
Joseph Nkoy, bonjour.
Bonjour, monsieur Grâce Hamzati.
L'échéance de la mi-juillet évoquée par les États-Unis est passée sans retrait visible des troupes rwandaises. Comment analysez-vous cette situation?
À mon avis, c'est encore une fois de plus la manifestation par le Rwanda de son comportement de mépris vis-à-vis de la communauté internationale, des États-Unis d'Amérique, et la manifestation aussi de sa détermination à pouvoir semer la désolation en République démocratique du Congo, la déstabilisation des institutions en République démocratique du Congo, et même la déstabilisation de la sous-région. Et je pense que c'est le moment pour les États-Unis d'Amérique de tirer toutes les conséquences, parce que nous ne pouvons pas accepter qu'à l'heure actuelle, au 21e siècle, qu'il y ait un dirigeant africain qui se comporte en étirant au mépris de toutes les instances internationales, de tous les accords bilatéraux et multilatéraux.
Selon vous, quels sont aujourd'hui les principaux obstacles qui empêchent l'application effective de l'accord de paix signé à Washington?
Il se dégage manifestement les obstacles ci-après. D'abord, la mauvaise foi dont a fait preuve le Rwanda depuis les débuts du processus qui a abouti à la signature de l'accord de paix entre lui et la République démocratique du Congo sous la médiation des États-Unis d'Amérique. Ensuite, ses velléités expansionnistes sur les territoires congolais, comme l'atteste, comme l'éprouve les rapports des experts des Nations Unies. Aussi, on peut noter son objectif principal qui consiste à soustraire à tout prix, dans les conditions les plus inhumaines, les richesses de la République démocratique du Congo qui lui permettent d'assurer la stabilité de son système économique.
L'accord ne prévoit pas de sanctions automatiques en cas de non-respect des engagements. Cette absence ne risque-t-elle pas d'affaiblir sa mise en œuvre?
Comme vous le savez, la vie internationale repose essentiellement sur la bonne foi de ses acteurs. Et notre pays a signé cet accord avec le Rwanda sous la médiation des États-Unis d'Amérique. Ainsi, les États-Unis d'Amérique se trouvent être au centre de la mise en œuvre de cet accord. Les États-Unis sont justement ceux qui ont reçu la responsabilité internationale pour tout mettre en œuvre afin que cet accord signé entre notre pays et le Rwanda soit appliqué de manière effective. Et nous pensons que les États-Unis d'Amérique ne peuvent pas voir leur honneur être battu en brèche par les comportements arrogants du Rwanda.
Et face à la poursuite des combats dans l'Est, quelles mesures la RDC devrait-elle privilégier aujourd'hui pour obtenir le retrait des forces rwandaises tout en accélérant le retour de la paix?
À ce niveau, je pense qu'il y a lieu de pouvoir rappeler des textes majeurs votés par les Conseils de sécurité des Nations Unies sur la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Il s'agit de la résolution 2773 qui exige le retrait de troupes rwandaises sur les territoires congolais. Il s'agit aussi de la résolution 2808 qui a prorogé le mandat de la MONUSCO. Et donc, il revient au Conseil de sécurité des Nations Unies de prendre toutes les mesures coercitives justement pour faire appliquer la résolution ou les résolutions 2773 et 2808. Pour le reste, la République démocratique du Congo s'en remet à la volonté et détermination des États-Unis d'Amérique à contribuer pour le rétablissement de la paix en République démocratique du Congo sans justement avoir l'idée de se soustraire de ses obligations les plus régaliennes. Notre gouvernement, à ce qu'il y revient, est en train de tout mettre en œuvre pour mettre en condition les forces armées de la République démocratique du Congo pour la défense de notre intégrité territoriale et notre souveraineté nationale.
Joseph Nkoyi, je vous remercie.
C'est bien moi qui vous remercie.
C'était notre invité Joseph Nkoir, le rapporteur adjoint de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale, qui s'entretenait avec Grace Hamzati Massanzi. Et c'est ce qui met fin à ce journal parlé du matin préparé pour vous par Richard Junior Kamunga et mis en onde par Jean-Claude Nchalamwana Makengonswalo. Ce journal est à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net.